législative 2022, second tour.
Pierre de Villeneuve.
Et je suis ravi de vous accompagner en cette première heure pour poser les choses avec vous, avec nos correspondants partout en France, avec nos invités. Bonsoir Adrienne Breton.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes membre de la Fondation Jean Jaurès, secrétaire général des Engagés. Dans un petit instant, nous rejoindra également le politologue Pascal Perrineau, professeur émérite à Sciences Po, auteur récemment de « Le populisme » aux éditions Que sais-je. Je vous rappelle une donnée qui n'a pas changé depuis le tour précédent de ces législatives. 6300 candidats pour 577 circonscriptions. La majorité absolue est fixée à 289 sièges, sachant que les forces en présence sont différentes par rapport à 2017. D'abord, 14 ministres sont en lice pour les élections. Justine Bénin éliminée au second tour. Je peux le dire car c'était en Guadeloupe et qu'on a les résultats officiels. Battue face aux divers gauches et NUP. Christian Baptiste, quant aux tendances, je rappelle que l'ARCOM nous interdit de donner quoi que ce soit avant 20h. C'est la règle. Mais nous allons parler, bien sûr, et une nouvelle fois, de l'abstention. Nous rejoignons tout de suite Gladys Laffitte au ministère de l'Intérieur. Bonsoir Gladys.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et le taux de participation est donc, on l'a su il y a une heure, de 38,11%.
Oui, les électeurs se sont encore moins déplacés que dimanche dernier. Il y a un peu plus d'un point d'écart. En revanche, c'est mieux qu'il y a 5 ans à la même heure. Mais bon, il faut rappeler qu'à cette époque-là, la participation était historiquement basse, avec seulement 35,33% de votants. Et aujourd'hui, donc, un peu plus de 38% à 17h. Alors, si on regarde dans le détail, il y a des départements qui se sont remobilisés par rapport à 2017. La Savoie, plus 10 points. Les Landes, la Vienne, les Pyrénées-Atlantiques, plus 9 points. Dans le Calvados aussi, on note un sursaut avec 40% de votants. C'est 6 points de plus qu'il y a 5 ans. Et c'est un peu mieux à Paris aussi, plus 4 points. En tout cas, c'est dans le Lot qu'on vote le plus aujourd'hui, bien au-dessus de la moyenne nationale, puisque près d'un électeur sur deux s'est déjà rendu aux urnes. Et c'est 12 points de plus qu'il y a 5 ans. On peut noter aussi une nette progression en Seine-Saint-Denis. Un électeur sur 4 s'est déplacé. Le département décroche quand même la palme du taux le plus faible, hein, c'est traditionnel. Mais les électeurs se remobilisent un peu par rapport à il y a 5 ans, avec tout de même plus 4 points de participation. A l'inverse, démobilisation notable en Haute-Corse, moins 10 points, et participation très faible aussi en Moselle, dans le Val-d'Oise. À peine 30% des électeurs sont allés voter, c'est une personne sur 3, Pierre.
Merci beaucoup Gladys Laffitte, illustration dans un bureau de vote maintenant du 15e arrondissement. Bonsoir Nina Droff, vous êtes en direct, y a-t-il beaucoup de votants ?
Oui, et bien ici, il y a eu 681 votants pour 1662 inscrits, soit une participation d'environ 41%, un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale. La plupart des gens qui sortent du bureau de vote sont là par civisme, c'est le cas d'Hélène.
Oui, j'en loupe pas une. C'est mon devoir, et puis après, il faut pas râler si on n'a pas voté, il faut s'en prendre qu'à soi.
Et certains entrent et sortent en quelques minutes, convaincus, déterminés. Elsa, elle confie être restée un long moment dans l'isoloir. D'autres, un long moment dans l'isoloir.
J'étais un peu dans l'hésitation, mais je suis très contente d'avoir voté.
D'autres viennent carrément à reculons. Le visage maussade, Ludi, 28 ans, a failli s'abstenir.
Aujourd'hui, franchement, voter, j'ai l'impression que ça ne sert strictement à rien. Je me suis sentie obligée de voter, mais pas forcément convaincue pour le parti pour qui j'ai voté.
Il ne reste maintenant qu'un peu moins de 2 heures aux derniers votants pour venir déposer leur bulletin dans l'urne.
Merci beaucoup Nina Droff, en direct d'un bureau de vote du 15e arrondissement de la capitale. Une dernière donnée après ce taux de participation de 38,11%. Plusieurs instituts de sondage, dont l'IFOP, s'attendent à une abstention de 54% aux alentours de 20h. Adrienne Breton, rien n'y fait, les Français n'ont pas voulu se rendre aux urnes en fait.
Oui, l'abstention reste a priori très importante, même si elle est un petit peu moins importante qu'il y a 5 ans. Je pense que ça s'explique quand même par une perte de considération de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Je suis retombée sur un sondage qui avait été fait par la Fondation Jean Jaurès sur l'utilité que les Français voient à cette institution qu'est l'Assemblée nationale. Et c'est à sa date de 2021, 59% des Français continuent de trouver que l'institution est utile. Il faut savoir qu'en 85, ce chiffre était de 80%. Donc il y a vraiment le sentiment que l'Assemblée nationale n'est plus une institution aussi utile que par le passé. Et finalement, certains élus vont dans ce sens-là. Quand on pense que Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon ne se présentent pas à cette élection. Cela montre aussi que pour une partie de la classe politique, finalement, cette institution a perdu une partie de son pouvoir. Donc ça pose probablement derrière une question quand même de refonte de nos institutions. Ça a été renforcé aussi par la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron, hein, qu'on dit très, très jupitérienne, donc très présidentialiste. Mais derrière, il y a effectivement la question de comment redonner du sens à cette élection et comment redonner du pouvoir à l'Assemblée. Peut-être que finalement, en ayant une majorité relative, en ayant des différents partis avec des horizons différents, on retrouvera une certaine forme de débat à l'Assemblée qu'on a oublié depuis quelques années.
Ça, c'est la grande inconnue. Et pour l'instant, effectivement, on ne va pas se lancer dans des tendances pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, on aura les premières tendances ici sur Europe 1 à partir de 20h. Bonsoir Pascal Perrineau.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir pour cette première heure où effectivement on a ce chiffre à nouveau assez bas de la participation, 38,11%. Vous êtes d'accord avec Adrienne Breton? On est là dans un nouveau modèle politique et aussi de société, c'est-à-dire que forcément la démocratie représentative en prend un coup.
Oui, qui tient à des tendances longues. Les électeurs des démocraties, d'ailleurs au-delà de la France, deviennent parfois de plus en plus sceptiques par rapport à l'acte électoral. En général, toutes les élections sont touchées, même l'élection présidentielle. Et puis, il y a une spécificité franco-française, c'est tout de même le quinquennat et la réforme qui avait suivi l'année suivante de l'inversion du calendrier électoral. Pourquoi ? Parce que le quinquennat raccourcit le temps politique, a donné une visibilité presque anormale au président de la République qui se mêle de tout. Vous mentionniez conception jupitérienne de l'actuel président. On pourrait parler de la conception de l'hyper-présidentialisation qui était celle de Nicolas Sarkozy. Vous voyez, tout cela, en effet,
Commençant presque par Charles de Gaulle.
Mais bien sûr. Mais Charles de Gaulle, vous savez, laissait au début de la Ve République davantage de lest à son Premier ministre. Il ne serait jamais venu à l'idée du général de Gaulle de considérer son Premier ministre comme un directeur de cabinet.
Oui,
il n'en était pas question.
Oui, oui.
Hein, et Michel Debré, qui était un Premier ministre d'envergure, puisque c'est l'homme qui avait, au fond, participé essentiellement à la rédaction de la Constitution de 1958, n'obéissait pas au doigt et à l'œil au général de Gaulle. Il y avait un dialogue entre les deux hommes. Mais c'est vrai qu'à partir de cette réforme de l'inversion du calendrier électoral, les élections législatives vivent dans l'ombre de l'élection présidentielle. Les Français se disent, mais à quoi ça rime dans un système hyper présidentiel, de nous convoquer pour une assemblée nationale dont on ne voit pas très bien quel est son rôle, sauf à être le béni-oui-oui du président de la République. Ce que ça a été sous Sarkozy, largement sous François Hollande jusqu'au moment où ça s'est gâché à la fin.
Et pourtant, on continue voilà, avec ce
bien
système.
Sûr. Bien
Alors,
sûr.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a personne qui n'ose, entre guillemets, moufter en disant « Écoutez, maintenant, ça suffit, ça ne fonctionne pas. On va faire, ce que vous disiez, Adrienne Breton, une refonte des institutions et ça va commencer par réunir le Parlement en Congrès, qui évidemment ne va pas être d'accord, puisque j'allais dire, c'est leur fonds de commerce. »
Mais réapparaissent, vous savez, l'idée maintenant. On réfléchit à nouveau à l'idée du retour au septennat, c'était carrément impossible.
Oui, ça c'est vrai qu'on y réfléchit. Oui.
Et du sextennat, par exemple, ce qui est tout de même, on dissocie la durée du mandat du parlementaire de la durée du mandat présidentiel. Et puis on réfléchit tout de même, j'espère, assez sérieusement, non pas au retour de la proportionnelle qui introduirait une perturbation dans le système majeur, mais, j'allais dire, à un correctif proportionnel qui éviterait cette anormalité que, par exemple, dans l'Assemblée sortante, en 2017, 8 députés du Rassemblement national, ce qui est absurde.
Adrienne Breton.
On pourrait aussi rapprocher ces deux scrutins que sont la présidentielle et la législative. Parce que comme vous le dites très justement, beaucoup de Français se demandent mais pourquoi finalement on me demande de confirmer ou infirmer le choix que j'ai fait il y a 2 mois aujourd'hui. C'est vrai ça a perdu un peu de sens. On pourrait très bien faire, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, avoir les élections le même jour, la présidentielle et la législative. Ça permettrait d'ailleurs probablement d'éviter cet effet d'entraînement qu'on a eu par le passé de la présidentielle
civil,
et la législative.
Mariage civil, mariage religieux le même jour,
exactement.
Ça marche toujours beaucoup mieux. Oui.
Et ça permettrait probablement d'avoir une abstention plus faible, de redonner du sens peut-être à cette élection pour certains et d'éviter cet effet d'entraînement et le rouleau compresseur de la présidentielle sur l'Assemblée et donc derrière de redonner probablement du pouvoir à l'Assemblée.
Adrienne Breton et Pascal Perrineau sont avec nous. Quelques éléments de calendrier. À partir de demain lundi, les députés prennent possession de leur écharpe tricolore. Mandat qui démarque mercredi prochain. Le 28 juin, il y a deux choses importantes. D'abord, la possibilité de rejoindre un groupe parlementaire et l'élection du président de l'Assemblée nationale, tandis que le discours de politique générale est attendu le 4 juillet à l'Assemblée nationale et le 5 au Sénat. Nos invités l'ont évoqué. Est-ce que nous sommes dans une crise institutionnelle qui demanderait une refonte, justement ? Vous restez avec nous dans un instant, la suite de cette spéciale législative avec le tour des QG. A tout de suite sur Europe 1.
Le second tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Avec nos invités, les politologues Pascal Perrineau et Adrienne Breton, nous allons maintenant partir dans trois QG, ceux de Renaissance et donc Ensemble, la NUP et les LR. D'abord, direction la Renaissance, rue du Rocher à Paris, nous allons retrouver Jacques Serret. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Nous sommes à 2 heures des premières tendances. Quelle est l'ambiance ?
Eh bien écoutez, c'est encore très calme ici rue du Rocher à Paris et pour tout vous dire, la soirée ne s'annonce pas particulièrement animée ici. Le QG du parti accueille ce soir la soirée électorale du candidat de la première circonscription de Paris, circonscription dans laquelle se trouve le QG de Renaissance. Les militants du mouvement ont été conviés à se retrouver ici, mais voilà, contrairement à la semaine dernière pour le premier tour, ni Elisabeth Borne ni Stanislas Guérini ne s'exprimeront depuis ces locaux. La première ministre doit prendre la parole peu après 20h depuis l'hôtel de Matignon. Un conseiller me confiait qu'il s'agit pour elle d'endosser dès ce soir le costume de chef de la majorité. Le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, également ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, lui doit rester dans sa circonscription parisienne où il est candidat à sa succession. Bref, comme au premier tour, le parti présidentiel la joue dans une relative sobriété.
Merci Jacques Serret pour Europe 1. Arthur Delaborde se trouve à l'Élysée-Montmartre où Jean-Luc Mélenchon vient d'arriver. Arthur, bonsoir.
Exactement, bonsoir Pierre. Jean-Luc Mélenchon qui est là devant la salle de l'Élysée-Montmartre. Il s'offre un petit bain de foule car il y a déjà ici plusieurs dizaines de personnes qui attendent l'ouverture des portes au public qui aura lieu dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend ici beaucoup plus de monde que la semaine dernière. Selon les organisateurs, il y aura au moins 650 sympathisants à l'intérieur de cette salle de l'Élysée-Montmartre pour assister à cette soirée électorale. Une salle d'ailleurs d'une capacité largement supérieure à celle de la Fabrique où l'Alliance de la gauche était réunie dimanche dernier pour permettre au plus grand nombre de suivre les prises de parole de Jean-Luc Mélenchon et des autres responsables de la NUPES. Un écran géant est même installé ici juste devant l'Élysée-Montmartre sur le boulevard Marguerite de Rochechouart en plein cœur du 18e arrondissement de Paris. Toutes les nuances de l'Union seront donc représentées tout à l'heure. On attend notamment Olivier Faure pour le PS, Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts ou encore Yann Brossat pour le Parti Communiste. Jean-Luc Mélenchon, lui, devrait s'exprimer aux alentours de 20h30.
Merci Arthur Delaborde. Et puis au niveau du QG des LR, rue de Vaugirard à Paris, les LR très présents dans ces législatives en nombre de candidats. On va avoir dans quelques petits instants Alexandre Chauveau qui se trouve au QG des LR. L'affiche, j'allais dire, assez paradoxale de ces législatives, puisque ni l'un ni l'autre n'était candidat, c'était Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, quand même, dans tout ça. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, on vous a présenté l'ambiance dans les deux différents QG. Est-ce que c'est paradoxal ? Qu'est-ce que ça vous inspire, Adrienne Breton ?
C'est le signe, s'il en fallait un supplémentaire, de la présidentialisation de notre système. C'est-à-dire que même les législatives se disputent désormais comme une présidentielle, et c'est Mélenchon. C'est Mélenchon qui est rentré dans cette dynamique-là dès le lendemain du premier tour en appelant à être élu Premier ministre, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal pour un parti qui prône une 6e République, une refonte de nos institutions et un retour vers une forme de parlementarisme. Finalement, lui-même est rentré dans ce jeu de la forte présidentialisation du régime en entraînant l'élection législative derrière son nom, alors que lui-même n'est pas candidat. Donc on est vraiment dans un scrutin de plus en plus personnalisé.
Intuitu personné, d'une certaine manière.
Et ce qui pose un peu la question de, quand même du rôle qu'on attend des parlementaires.
Pascal Perrineau.
Oui, ce qui pose un problème de la cohérence entre les comportements et les discours. Parce que quand vous écoutez les propositions de la France insoumise sur le terrain institutionnel, elles sont extrêmement audacieuses. Elles vont dans le sens d'une sixième république qui serait une république parlementaire qui n'aurait aucun des défauts de la république présidentielle ou présidentialiste actuelle.
Vous employez le conditionnel, Jonathan.
Voilà. Or, là, on s'aperçoit que, en effet, comme ça vient d'être dit, le président de la France insoumise rentre dans la vedettarisation et dans la présidentialisation à l'extrême, puisque tout de même, il a fait toute une campagne sans être lui-même candidat aux législatives. D'ailleurs, dans l'espace de la majorité, il y a un peu un cas similaire.
Mais est-ce qu'il n'était pas obligé, quand même, d'une certaine manière ?
Il aurait été obligé, à mon avis, plutôt de se présenter dans une circonscription. Et à ce moment-là, d'être un des leaders de la future majorité parlementaire. Quand on a la tripe vraiment parlementaire, c'est cela l'attitude qu'est l'attitude idoine. Et d'autre part, quand vous regardez Édouard Philippe aussi, c'est assez, assez similaire. Édouard Philippe joue un rôle important à Horizon. Horizon risque d'être dans la majorité, si elle gardait la majorité des sièges, Horizon va jouer un rôle essentiel. Et là aussi, on aura un leader qui ne sera pas présent au Parlement. Donc il y a là quelque chose d'assez, d'assez étonnant, à la fois pour Édouard Philippe, qui connaît bien tout de même le jeu des institutions de la Ve République, mais surtout pour Jean-Luc Mélenchon. L'itinéraire de Mélenchon depuis quelques semaines est un itinéraire assez surprenant.
Cette majorité dont vous parlez, Pascal Perrineau, c'est assez intéressant. Évidemment, la grande question, c'est savoir s'il y aura une majorité relative ou une majorité absolue. Est-ce que dans l'un des deux cas, il y a un peu plus de souplesse, il y a un peu plus de débat, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir plus de contestation ?
La majorité absolue, si jamais une force arrive à l'accrocher, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Mais c'est peut-être pas
Oui, mais c'est jupitérien, pour reprendre ce que vous disiez
tout à
l'heure.
Et c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour l'image sur laquelle vous insistiez tout à l'heure de l'Assemblée nationale dans l'opinion publique qui se dit si c'est vraiment une assemblée de députés de parti godillot, comme on disait jadis, le doigt sur la couture du pantalon vis-à-vis du président, ça n'a pas un grand intérêt. Donc le scénario qui, si l'on en croit les sondages d'opinion depuis 8 jours, est le plus probable, c'est plutôt un scénario de majorité relative. Mais ensuite se pose la question, quelle majorité relative ? Parce que si en effet la majorité relative c'est être à 6 ou 8 députés en dessous de la barre fatidique des 289, c'est-à-dire la majorité absolue des sièges, j'allais dire... Ça ne pose pas trop de problèmes, ça se fait. Il suffit d'avoir 2 ou 3 hommes habiles en matière d'élaboration des compromis pour aller chercher les 8 ou 9 députés. Mais si, en revanche, la majorité se retrouve à 260 députés, il en manque 29. Là, c'est une autre paire de manches. 29, vous ne les trouvez pas comme ça. Surtout quand vous êtes privé de l'article 49 alinéa 3. C'est-à-dire de ce qui vous permet...
Privé, limité en tout cas.
Limité,
c'est-à-dire que,
mais,
voilà,
mais presque
on
privé.
On ne peut plus le sortir comme
savez,
une arme.
La dernière situation de majorité relative, c'était Michel Rocard en 1988.
Oui, exactement.
Mais Michel Rocard, il a utilisé, c'est le recordman sous la Ve République, 28 fois, si ma mémoire est bonne, l'article 49. Là, le prochain ou la prochaine première ministre...
C'est ce qui
ministre,
a conduit d'ailleurs à le limiter. Parce que...
Bien sûr, sera incapable... d'arriver à un tel score, puisqu'on prévoit qu'en dehors du budget et des textes sur la sécurité sociale, c'est utilisé une fois par session.
Adrienne Breton.
Une différence aussi avec ce qui s'est passé sous Rocard, c'est d'après ce que nous disent les sondages, les partis qui progresseraient le plus seraient les partis les plus extrêmes, et non pas les partis dits de gouvernement. Et ça aussi, c'est parce que ça a été la stratégie d'Emmanuel Macron et d'En Marche, d'écraser tous les partis de gouvernement et d'essayer de créer un grand centre mou, ce qui fait qu'aujourd'hui, les oppositions les plus fortes se retrouvent aux deux extrêmes de l'échiquier politique. Donc, côté insoumis, on pourrait très bien avoir une multiplication par 10 du nombre d'élus, et on parle un peu moins du Rassemblement National, mais pourtant la progression est très forte. Il pourrait, pour la première fois depuis 86, avoir un groupe à l'Assemblée Nationale. Donc on risque d'avoir aux deux extrêmes de l'Assemblée beaucoup de députés très, très véhéments, et donc une difficulté pour ce gouvernement à trouver des alliances de circonstances sur certains textes. Ça sera beaucoup plus difficile de faire des alliances avec la France Insoumise ou avec le Rassemblement National sur certains amendements, sur certains textes, que ça l'aurait été avec les LR et le PS. Donc, il est possible, effectivement, que l'Assemblée soit quand même beaucoup plus chahutée dans les 5 prochaines années.
Voilà, vous avez, Adrienne, évoqué justement les LR, du rôle qu'ils pourraient jouer éventuellement dans un scénario qui est pour l'instant incertain. On va au QG des LR, rue de Vaugirard, à Paris. Les LR, donc, très présents en nombre de candidats. Bonsoir, Alexandre Chauveau.
Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous.
Comment ça se passe chez les LR ?
Écoutez, le début de la soirée est prévu à 19h15 pour la presse. Alors, on n'a pas encore vu arriver d'élus, mais cela devrait plus tarder maintenant. Christian Jacob, notamment, sera bien présent ce soir et il prendra la parole après 20h pour commenter les résultats de ce second tour. LR joue gros ce soir. 73 candidats sont présents au second tour, dont 60 sortants. Parmi eux, on surveillera particulièrement le sort d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, celui d'Aurélien Pradier dans le Lot, mais aussi ceux des deux derniers représentants des Républicains engagés à Paris dans le 16e et le 17e arrondissement, Francis Piner et Brigitte Koester. Ce qui est sûr, c'est que les Républicains auront moins de députés qu'en 2017, mais que leur influence pourrait être malgré tout très importante et variera en fonction de la nature de la future majorité d'Emmanuel Macron. Si celle-ci n'était que relative, alors LR pourrait être une force politique sur laquelle devra s'appuyer le chef de l'État dans les 5 prochaines années.
Eh bien, merci Alexandre Chauveau qui vient de compléter ce que venait de dire Pascal Perrineau et Adrienne Breton. Vous restez avec nous. Nous sommes dans cette grande soirée législative spéciale sur Europe 1. Nous continuons notre tour des QG. Hors de Paris cette fois, Hénin Beaumont pour Marine Le Pen et Marseille pour le successeur de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard. À tout de suite.
Le second tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Avec dans ce studio nos invités, les politologues Adrienne Breton et Pascal Perrineau. Je vous rappelle quand même ce chiffre de la participation à 17h, 38,11%. C'est moins bien que dimanche dernier au premier tour, puisqu'il y avait eu 39-42. Et c'est mieux qu'au second tour, à la même heure, en 2017, puisqu'il y avait eu ce record terrible de 35,33. Mais on vient de l'évoquer avec nos invités. C'est évidemment un record en baisse également de cette participation. Les Français boudent les urnes une fois de plus, avec des projections déjà à 20h à 54% d'abstention, selon différents instituts de sondage. Suite maintenant des QG, avec un focus sur les deux extrêmes, Marine Le Pen et le successeur de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, candidate dans son fief d'Hénin Beaumont, comme d'habitude, avec pour ambition d'avoir plus de députés encore à l'Assemblée nationale. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Vous êtes sur place à Hénin Beaumont, au Boulodrome, ça ne s'invente pas.
Hein. Oui, effectivement, et contrairement à dimanche dernier, où la soirée électorale s'était organisée en plein air et sous le soleil, eh bien aujourd'hui, météo oblige, temps couvert et température plutôt fraîche, eh bien c'est à l'abri, effectivement, dans une sorte de grand hangar qui abrite les terrains de pétanque de la boule beaumontoise, que militants, sympathisants et élus du Rassemblement national vivront les résultats de ce second tour. Marine Le Pen a voté ce matin vers 11h au bureau de vote numéro 12 d'Hénin Beaumont, école Jean-Jacques Rousseau. Elle a d'ailleurs été suivie 2 heures plus tard, dans ce même bureau de vote, par son adversaire de la NUPES, dans cette 11e circonscription, l'écologiste Marine Tondelier. Puis comme à son habitude, eh bien, l'ex-présidente du Rassemblement national a déjeuné avec le maire de la ville, Steve Briouat, avant de prendre quelques heures de repos et de consulter eh bien, les premières remontées de terrain. Hein. Petit élément d'information d'ailleurs à Hénin Beaumont, à la fermeture des bureaux de vote tout à l'heure, la participation n'était que de 45,2% en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Mais plus généralement, vous l'avez dit, l'enjeu est important pour Marine Le Pen, c'est-à-dire la constitution d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il faudra pour cela, eh bien, par exemple, conforter et renforcer ses positions ici, dans l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais, mais aussi des victoires dans les 208 circonscriptions où les candidats du Rassemblement national sont encore en lice. On attend une prise de parole de Marine Le Pen ici, donc, au boulodrome du quartier de Beaumont, vers 20h30.
Évidemment, ça nous amuse. Merci Lionel Gougelot, chaussée de ses rivières, évidemment, pour pointer et tirer au boulodrome d'Hénin Beaumont, à l'autre bout de la France. Il est peut-être chaussée pareil d'ailleurs, mais c'est l'autre bout de l'échiquier politique également qu'on touche. Direction Marseille pour le successeur de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard. Bonsoir Stéphane Burgat.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Jean-Luc Mélenchon qui, pour le coup, n'a pas oublié de voter à Marseille ce matin.
Non, effectivement, il était à présent en toute fin de matinée dans une école marseillaise hein, du centre-ville dans sa circonscription. Toujours, il a voté accompagné de son lieutenant, de son candidat successeur Manuel Bompard, les deux hommes qui ont ensuite eh bien, filé, pris le train direction Paris pour bien préparer cette soirée, préparer le discours de Jean-Luc Mélenchon et cette soirée électorale hein, pour la NUP qui se tiendra à l'Élysée Montmartre avec des passages, des prises de parole à attendu des leaders des différentes nuances politiques qui composent la NUP. Un œil toujours bien sûr sur les chiffres de la participation à Marseille, dans cette ville où les bureaux de vote ferment, on le rappelle, à 20h. Le dernier pointage, on vient de l'avoir, à 17h, 29% à peine de participation à Marseille. C'est très en dessous de la moyenne nationale, de la moyenne même du département. Mais c'est quand même près de 2 points de plus comparé à 2017. Dans le département, on s'en sort pas trop mal sur la participation. Si on veut regarder un petit peu plus largement, 37,4%. Là encore, c'est moins bien que la moyenne nationale, mais les Bouches-du-Rhône qui se tiennent mieux que l'ensemble de la participation constatée sur l'ensemble de la région PACA, qui se chiffrait à tout juste 36,5% tout à l'heure.
Merci pour toutes ces précisions, Stéphane Burgat, en direct de Marseille, Adrienne Breton et Pascal Perrineau. Je reprends juste les deux interventions de nos correspondants. D'abord, on a Lionel Gougelot qui nous a dit que Marine Le Pen avait pris du repos. Et de l'autre côté, vous avez quand même cette image qui nous revient de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Vous n'êtes pas candidat ?» Il dit « Bah non, il faut voter pour Manuel Bompard. » Vous avez quand même quelqu'un qui a occupé, j'allais dire, le spectre médiatico-politique depuis pratiquement le soir du second tour de la présidentielle. Et de l'autre côté, une candidate qui, à nouveau, prend du repos. Alors qu'elle est arrivée, c'est elle qui est arrivée deuxième à la présidentielle, c'est pas Jean-Luc Mélenchon.
En effet, elle a été saisie certainement d'un moment de doute après son échec. Certains s'en seraient contentés, 42% des suffrages exprimés, mais son échec renouvelé contre Emmanuel Macron. Il y a eu de manière claire une période de flottement, alors que ce qui se jouait, c'était quel est le leader de l'opposition en France. Et le flottement de Marine Le Pen...
Ça va se jouer aussi. Hein,
ça va se jouer. Oui. Elle sera présente à l'Assemblée nationale, alors que Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas. Donc, il y a peut-être une session de rattrapage. Mais, de manière claire, de la présidentielle aux législatives, il y a eu un flottement du Rassemblement national qui, en termes, on le voit dans toutes les enquêtes, en termes de perception par l'opinion publique de qui emmène l'opposition, pour l'instant... aux yeux des Français, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que Marine Le Pen a eu certainement un doute personnel et un doute politique. Est-ce que c'est le début de la retraite ou est-ce que je prépare une nouvelle candidature?
Ah bah oui, mais bon.
Je pense qu'on peut voir aussi dans ces comportements de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle, un reflet de leur inconscient politique. La gauche et l'extrême-gauche, traditionnellement, sont des partis pro-parlementaristes et donc pour qui l'élection législative est une élection importante. Le Rassemblement national et l'ex-Front national est un parti césariste, bonapartiste. Et donc l'élection à l'Assemblée nationale est une élection secondaire pour eux. L'élection importante, c'est l'élection présidentielle avant tout. Les élections européennes ont une certaine forme d'importance aussi parce qu'ils sont anti-européens et souverainistes. Mais au niveau national, l'élection importante, c'est la présidentielle. L'élection législative est pour eux secondaire. Et je pense que quelque part, dans ce refus de la part de Marine Le Pen de faire campagne pour les législatives, il y a un peu de cet inconscient politique
Il y a bien sûr ça, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, un boulevard pour Jean-Luc Mélenchon où, effectivement, il pouvait agglomérer le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, c'est-à-dire Jadot, Hidalgo, etc., qui tous étaient un. Et de l'autre côté, il y a le fameux plafond de verre qui sépare la droite de gouvernement et l'extrême droite. Et du coup, Marine Le Pen ne pouvait pas, au lendemain du second tour de la présidentielle, taper chez les LR, taper chez... Tiens, bonjour, voilà, venez. Elle a essayé avec Zemmour, ça n'a pas fonctionné.
Mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté n'est pas nécessairement d'être dans des accords d'appareil à droite. Elle a longtemps vilipendé les accords qui pouvaient y avoir ou les compromissions qui pouvaient y avoir entre les partis du gouvernement. Je pense qu'elle ne souhaite pas, et je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'elle ait intérêt, à chercher une alliance avec la droite. Elle a refusé les alliances avec Reconquête et avec Éric Zemmour. Et on voit que ça lui a plutôt porté profit aujourd'hui, vu que Reconquête n'aura aucun élu à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas très bien ce qu'elle aurait gagné à négocier un accord avec la droite. De fait, les élus RN sont plutôt en progression. Donc sa stratégie est payante. Et, et le fait de ne pas avoir fait campagne pour les législatives, je ne suis même pas sûre qu'elle le paye finalement en termes de nombre d'élus.
C'est assez amusant parce que j'allais dire, dans l'inconscient des Français, le RN, c'est un parti d'extrême droite. Vous demandez à n'importe quel porte-parole du RN qui vous dira non, nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. C'était ça, c'était le FN, ce n'est plus le RN. Et donc, peut-être aussi pour ça, elle ne veut plus de DLR, Pascal Perrineau.
Mais si vous voulez, Marine Le Pen, elle est... Mais son père aussi, ça a toujours été une puissance électorale, mais une puissance solitaire. Dans la tradition d'ailleurs de ce courant politique, se mettre autour d'une table pour discuter, c'est véritablement, j'allais dire, pas dans leur capital génétique. En revanche, au sein des formations de gauche qui forment la NUP, j'allais dire au contraire, ça fait partie les écologistes, les socialistes avec leurs différents courants ont l'habitude de cela. Et bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait absolument dans sa carrière politique toutes les sensibilités de la gauche, de l'extrême-gauche trotskiste à la France insoumise, en passant par le Parti socialiste, connaît très bien toutes ces cultures.
Il a travaillé avec François Mitterrand.
Voilà, voilà. Donc, voilà, il a senti que le moment était venu de redonner un peu de perspective à ces gauches esselées.
Et dernière chose concernant, j'allais dire, cette mise en parallèle entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ils se sont partagés, j'allais dire, une actualité brûlante qui est le problème numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et ça, effectivement, il y a deux lectures, mais c'est la même partition.
Et très tôt dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire que Marine Le Pen a très tôt commencé sur ce thème-là, Jean-Luc Mélenchon aussi, dans un contexte où pendant longtemps, on s'est dit que les sujets identitaires, par exemple, allaient être des sujets importants dans la campagne présidentielle. Et finalement, les Français ont donné raison aux candidats qui avaient commencé une campagne sur le terrain à bas bruit sur les sujets de pouvoir d'achat. Et les ont mis les plus hauts dans les résultats du scrutin. Donc c'est effectivement un sujet d'actualité qu'ils ont senti très tôt, je pense, dans la campagne. Après, c'est aussi un sujet qui se prête aux promesses pas toujours réalistes. Et on a un peu le sentiment, que ce soit chez Jean-Luc Mélenchon ou chez Marine Le Pen, d'avoir une liste de mesures et de cadeaux qu'ils ne seraient probablement pas en mesure de tenir s'ils arrivaient véritablement au pouvoir. Donc il y a une certaine facilité finalement quand on est dans l'opposition sur ces sujets-là à promettre des dépenses, promettre d'augmenter tous les minima, tous les salaires, etc., sans finalement avoir besoin de le mettre en œuvre au final.
Pascal Perrineau.
Oui, en effet, on a des partis, si vous voulez, c'est ce qui change beaucoup sous la 5e. Maintenant, en face des forces de gouvernement, on a que des partis protestataires. Ça n'a jamais été le cas sous la 5e République. Quand c'était la droite de gouvernement, il y avait la gauche de gouvernement en face. Quand c'était la gauche de gouvernement, il y avait la droite de gouvernement en face. Et là, avec Macron, il faut reconnaître, et ça, la nouvelle politique, que tout a changé. Puisqu'il a créé le véritable désert en matière d'alternatives de gouvernement. Le Parti socialiste est exsangue.
Le centre mou, comme disait Vivienne Breton.
Voilà, Et LR est dans un mauvais état. Peut-être qu'il aura une certaine résilience. On le verra dans quelques dizaines de minutes. On verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'il a devant lui uniquement des forces protestataires qui ne se préoccupent pas, au fond, d'élaborer des programmes de gouvernement. Ce sont des programmes de rupture, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise. Ce sont des plateformes syndicales, mais pas des programmes de gouvernement.
Pascal Perrineau et Adrienne Breton sont avec nous jusqu'à 19h sur ce plateau sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de cette spéciale, et nous continuons le Tour de France des QG en accent maintenant sur 3 des 14 ministres en lice avec des enjeux, évidemment. À tout de suite.
Le second tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie avec des politologues Adrienne Breton et Pascal Perrineau. 14 ministres ambitionnent donc d'être toujours élus députés ce soir. Obligation de résultat, l'exécutif l'avait annoncé, tout ministre battu devra démissionner. C'est déjà le cas, je vous le disais en introduction, pour Justine Bénin, secrétaire d'État à la mer battue en Guadeloupe, les Outre-mer ayant déjà les résultats. Direction Oyonnax, où Damien Abad est candidat à ses réélections dans la 5e circonscription de l'Ain. Bonsoir Jean-Luc Boujon.
Bonsoir Pierre.
Décidément, l'affaire Abad poursuit le ministre des Solidarités avec une manifestation en son nom contre aujourd'hui, Jean-Luc.
Effectivement, trois femmes membres des Femen ont manifesté ce matin vers 9h devant un bureau de vote d'Oyonnax, qui est la ville où vote Damien Abad. Poitrine dénudée, armée de casseroles, elles ont demandé au ministre des Solidarités de démissionner et de sortir ses casseroles à lui avant d'être délogé assez rapidement par la police. Scène donc insolite qui illustre quand même la pression à laquelle doit faire face Damien Abad, qui a été la cible en début de semaine d'une nouvelle accusation, la troisième, cette fois pour tentative de viol en 2010 de la part d'une femme qui a témoigné sur le site d'information Mediapart. Damien Abad n'est donc pas si serein que cela, malgré son très bon score de dimanche dernier, où il est arrivé en tête avec 10 points d'avance, 33% contre 23% à son adversaire de la NUPES, Florence Pisani. Florence Pisani, justement, qui avait retenu un peu ses coups avant le premier tour, mais qui cette fois s'est montrée beaucoup plus offensive en demandant des comptes à Damien Abad, qui lui a réfuté catégoriquement ses nouvelles accusations et qui a dénoncé une campagne de caniveau. Donc on voit un peu l'ambiance pour cet entre-deux tours. Et pour lui, l'enjeu est très fort puisque effectivement il joue ce soir son mandat de député, mais surtout son maintien au gouvernement. Donc on saura à 20h si les électeurs de l'Ain ont été ébranlés ou non par ces nouvelles accusations.
Merci Jean-Luc Boujon. Céline Géraud se trouve quant à elle avec Clément Beaune dans l'Est parisien, 7e circonscription de la capitale. Bonsoir Céline.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Face à Clément Beaune, on a l'avocate NUP, Caroline Mécari, avec laquelle Clément Beaune a d'ailleurs quelques accrochages cette semaine sur le tractage, sur les marchés.
Absolument, un accrochage qui est resté malgré tout très courtois, hein, Pierre. C'était jeudi sur le marché d'Aligre, dans le 12e arrondissement. Clément Beaune est tombé par hasard sur son adversaire qui tractait comme lui et qui le devance de 5,5 points à l'issue du premier tour. Le ministre candidat a interpellé Caroline Mécari en lui demandant pourquoi elle avait refusé de débattre avec lui lors d'une émission de radio et lui a proposé dans la foulée ce débat au cœur du marché devant une poignée de badauds amusés, ce qu'elle a poliment refusé. En attendant les résultats ce soir, ce sont les 2000 voix récoltées par le candidat républicain Aurélien Véron, ici dans cette 7e circonscription, qui peuvent vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Les électeurs de droite iront-ils voter? Vont-ils glisser un bulletin blanc ou donner leur voix à Clément Beaune en ballotage défavorable avant ce deuxième tour? Le suspense reste entier ici.
Merci Céline Géraud. Et puis autre ministre qui joue son portefeuille comme les 13 autres, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et candidate dans l'Essonne. Victor Chabert nous attend à Massy. Bonsoir Victor. Victor.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Mais c'était un jour tout particulier pour Amélie de Montchalin.
Oui Pierre, c'est son anniversaire à Amélie de Montchalin, elle a 37 ans aujourd'hui. Alors elle fait actuellement le tour des bureaux de vote. La ministre de la Transition écologique est face à Jérôme Guedj, candidat de la NUPES ici dans la 6e circonscription de l'Essonne. Jérôme Guedj, c'est un socialiste très implanté, ancien président du conseil départemental et surtout ancien député de la circonscription. C'est lui qui est arrivé en tête ici au premier tour avec 38% des voix, 31 pour Amélie de Montchalin. Le taux de participation à 17h dans l'Essonne était seulement d'un peu plus de 31%. On est ici donc dans une circonscription qui fait partie des 271 duels qui opposent la majorité présidentielle à la NUPES. Et la règle est impitoyable pour les ministres. Si ce soir, Amélie de Montchalin, numéro 5 du gouvernement, ministre de ce qui a été annoncé comme la priorité du quinquennat, la transition écologique, perd son siège, elle sortira de facto du gouvernement.
Merci beaucoup Victor Chabert. Pascal Perrineau, est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension d'être dans la tête des Français? C'est-à-dire que d'un côté, on a un exécutif qui dit « tiens, vous n'êtes pas assez bon pour être au gouvernement si vous n'êtes pas élu député », et d'un autre côté, les Français, les électeurs qui disent « mais attendez, on a un ministre qui est au gouvernement et qui ne sera jamais député, c'est son suppléant, à quoi on joue là ?»
En effet, il y a une incohérence qui existe d'ailleurs depuis longtemps. C'était le général de Gaulle qui avait insisté pour que, en effet, on ne puisse pas cumuler la fonction parlementaire avec la fonction de ministre.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'il voulait décrocher de l'influence parlementaire les hommes et les femmes, mais surtout à l'époque les hommes, qui constituaient l'exécutif. Il voulait en effet qu'il y ait une indépendance du gouvernement par rapport à la vie parlementaire. Et bien sûr, cette disposition constitutionnelle n'a jamais été changée. Cependant, il faut bien voir que, si on lit ça un peu à l'envers,
oui,
avoir des ministres qui n'ont aucune implantation locale, qui n'ont qu'une, une fonction de technocrate, c'est aussi une dérive. Il est bon qu'un ministre homme ou femme, est un ancrage local. Or là, dans le gouvernement, et en particulier dans les hommes et les femmes qui ont entouré Emmanuel Macron, il y a beaucoup de ministres sans expérience locale du tout. Et on voit que ça constitue un problème. Si le président a eu autant de problèmes avec, comme on dit aujourd'hui, les territoires, hein, avec les élus locaux, qui pourtant au départ en 2017 ne lui étaient pas très défavorables, c'est parce que lui-même il n'avait jamais exercé de fonction locale et que les élus locaux se sont dit « mais il faut nous écouter ». Regardez ce qui s'est passé au moment de la lutte contre la Covid. Au début, en effet, ce sont des mesures technocratiques qui sont mises en place et les choses se sont mieux passées à partir du moment où les élus locaux s'en sont mêlés. Hein. Et au fond, Emmanuel Macron ne l'a jamais véritablement reconnu et ça se poursuit aujourd'hui. Je trouve ça assez bien d'ailleurs que autant de ministres se confrontent au suffrage universel. Ils en ressortiront. Enrichi.
Vous êtes du même avis
ou gagné.
Adrienne Bonjour.
Je suis plus mitigée. Bien évidemment, c'est bien que des ministres aient un ancrage local. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir quand même des élus de la République qui connaissent leurs électeurs et qui soient reconnus par leurs électeurs. Or, avec ce système où on a des ministres qui se présentent à l'élection pour finalement ne pas siéger, on a un certain nombre d'électeurs qui finalement ne savent même pas qui ils vont élire à l'Assemblée nationale. On a un système qui est quand même très, très centralisé sur la personne du président de la République. Quand on regarde les affiches pour les législatives, pour La République En Marche, il n'est pas rare d'avoir Emmanuel Macron en très gros, ensuite en plus petit, le candidat ministre, et parfois le suppléant, il faut le chercher sur la quatrième de couverture,
alors
que c'est lui qui va siéger. Donc ça ne permet absolument pas de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée. Or finalement, ceux qui doivent porter la voix des électeurs, qui doivent pouvoir dire à un ministre, là tu te trompes, le ressenti sur le terrain, c'est celui-là, c'est ça qui est important pour les gens et c'est ça qu'il faut porter. Ce sont les élus du Parlement qui peuvent porter ça et qui doivent avoir ce dialogue avec les ministres. À partir du moment où on a des élus qui sont très fragilisés parce que finalement inconnus des électeurs et assez mal implantés, on ne permet pas d'avoir une assemblée qui remplisse véritablement son rôle. Donc pour moi, pourquoi pas avoir effectivement des ministres qui ont un parcours avec un ancrage local, ça peut aider. Mais par-dessus tout, il faut avoir des élus de la nation qui remplissent véritablement leur fonction d'intermédiaire entre les électeurs et le gouvernement.
Et bien voilà, le débat continue et nous, on marque une nouvelle pause. Dans un instant, la suite de cette spéciale législative qui se poursuit jusqu'à minuit. À tout de suite.
Le second tour des élections législatives. L'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Et toutes les équipes d'Europe 1 sont mobilisées pour vous faire vivre cette grande soirée législative jusqu'à minuit. Nous sommes en studio avec Pascal Perrineau et Adrienne Breton. Je vous rappelle ce chiffre de la participation tout à l'heure à 17h, 38,11%, sachant que les instituts de sondage, que ce soit ELAB, l'IFOP, etc., ont une estimation de l'abstention à 20h à 53,5%. Justement, on va voir si, puisque dans les grandes villes, les bureaux de vote ferment à 20h, si les retardataires sont au rendez-vous. Nina Droff, vous vous trouvez toujours dans un bureau de vote du 15e arrondissement de Paris. Est-ce que vous avez du monde qui, justement, dardard, arrive dans les bureaux de vote pour voter au dernier moment ?
Oui, on commence un petit peu à accélérer le pas ici. Il ne reste plus beaucoup de temps pour voter. Les retardataires sont assez nombreux. Une dizaine sont actuellement dans le bureau. Alors certains ont choisi de venir en fin d'après-midi pour profiter d'abord de cette journée ensoleillée.
On avait du monde à déjeuner et qu'on a profité de la fin de la promenade avec les enfants pour voter.
Mais aussi pour éviter la foule.
Pas beaucoup de monde, donc c'est fluide, c'est bien.
Je pensais qu'il y aurait plus de monde le matin.
Mais d'autres viennent tard parce qu'ils ont hésité jusqu'à la dernière minute à venir voter. Yudi s'est décidée au dernier moment.
C'est à la fin de la journée et du coup je me suis dit j'avais programmé ça en fin de journée si j'avais le temps. C'était pas la priorité. Hein.
Et au moment où je vous parle, la participation est maintenant à 42% dans ce bureau de vote.
Merci beaucoup de ces dernières précisions, Nina Droff, dans un bureau de vote du 15e arrondissement. Vous avez vu quand même ce sonore que vient de diffuser Nina Droff. Il y a petit 1, le déjeuner. Ouais. Petit 2, la promenade. Ouais. Et petit 3, le vote. Ouais. C'est dans ce sens-là, hein, Pascal Perrineau.
Voilà. Comme vient de le dire une électrice, ce n'était pas la priorité.
C'est ça.
Voilà. Le vote aux élections législatives n'est plus la priorité.
C'est grave, docteur Perrineau.
Du dimanche. C'est-à-dire, oui, c'est assez grave. Parce que quand on a autant de Français qui boudent les urnes, peu à peu, ça va poser un problème, qu'on le veuille ou non, de légitimité des élus. Très vite, la question, ça va être mais qui t'a fait roi, ou plutôt qui t'a fait député, hein, et le poids politique de l'Assemblée nationale, qui est déjà dans notre système hyper-présidentiel, pose problème. Cette faiblesse du contrepoids parlementaire est renforcée par le fait qu'en effet, ben voilà, les députés sont élus parfois. Si vous rapportez ça aux inscrits, c'est vertigineux. Vous aurez des députés élus avec 20% des électeurs inscrits. Ça veut dire que 80% des électeurs de la circonscription
ne sont pas élus.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Adrienne Breton.
Oui, c'est très grave pour le fonctionnement de notre démocratie. Il y a probablement des choses à faire sur, ne serait-ce que sur ce qu'on appelait autrefois l'éducation civique, ou en tout cas apprendre aux plus jeunes l'importance de voter. Il y a probablement aussi, du côté des élus, beaucoup de choses à faire, notamment, je pense au bilan de mi-mandat ou même des bilans annuels que les élus pourraient faire pour retourner vers leurs électeurs, expliquer ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais assez marquée il y a quelque temps. J'avais croisé une élue à Bordeaux qui tractait. Et donc je disais c'est super, très intéressant, merci pour ce tract. Et donc je vois que vous montrez sur le tract ce que vous avez porté pendant ce quinquennat. Et elle m'a répondu ah non, c'est ce que le gouvernement a porté.
Ah oui.
Et j'ai trouvé ça extrêmement triste et inquiétant.
Qu'elle suit sur la.
Oui. Ouais. En plus, quand on est un député de la majorité, je veux dire, on a une capacité normalement plus importante que dans l'opposition à porter des mesures. Mais finalement, pour que les électeurs puissent retourner aux urnes avec conviction, il y a besoin d'avoir aussi un retour de la part des personnes qu'ils ont élues sur ce qu'ils ont fait en cours de mandat. Et ça ne demande pas énormément de temps que de faire un petit papier, une petite lettre, une fois par an, à ses électeurs pour raconter ce qu'on a fait pendant son mandat et pour que l'électeur sache pour qui il a voté concrètement.
Voilà, abstention finale pour CNews et Europe 1, 53,5%, alors que Elisabeth Borne se rend à l'Élysée. Tiens, en ce moment, là, les images filent sa voiture avec cette première ministre, qui est également, Pascal Perrineau, est dans la balance, j'allais dire.
Qui est également dans la balance, avec un rapport de force qui, au regard du premier tour, semble être favorable tout de même.
Pour l'instant.
Voilà, dans le parachutage de Mme Borne, on a dû faire attention dans les hautes sphères de la Macronie à ne pas lui donner une circonscription qui soit une circonscription
difficile.
Mais pour les autres ministres, on va peut-être avoir tout à l'heure quelques surprises.
Ah bah ça, justement, on va examiner les tendances, alors qu'effectivement, je vous rappelle que les équipes d'Europe 1 sont mobilisées, ainsi que celles de CNews, puisque vous pourrez à partir de 19h suivre la soirée sur Europe 1 et sur CNews. On va voir effectivement que justement cette élection législative a brassé énormément de sujets. Le pouvoir d'achat, on l'a dit, et malgré les différentes choses qui se sont déroulées ces dernières semaines, et j'allais dire ces derniers jours, parce que il y a un événement dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'était l'assassinat de ce médecin militaire Alban Gervaise. Le thème de la sécurité a été un peu tu ces derniers temps, Pascal Perrineau.
A été un peu tu, alors qu'il reste, en particulier pour les franges de l'électorat âgé qui se mobilisent. Il faut savoir, quand il y a une forte abstention, il y a une surreprésentation de cet électorat âgé. Parce que cet électorat âgé, au-delà de 65 ans, est un électorat dans lequel la culture du vote, c'est une culture assez différente de ce qu'il y a chez les jeunes. C'est une culture où le vote est certes un droit, mais avant tout un devoir. Chez les jeunes, ça n'est plus un devoir. On exprime sa citoyenneté sur un mode contractuel, quoi. De temps en temps, on est dans la citoyenneté, on vote, de temps en temps, on en sort. Hein. Ce n'est pas du tout le même vécu citoyen. Et chez les personnes âgées, oui, le thème de la sécurité, tout simplement de la sécurité d'aller et de venir, en particulier dans les espaces urbains, en paix, le droit à la sûreté, comme disait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est très important. Le thème du pouvoir d'achat, bien sûr, aussi pour les petites retraites, mais le thème de la sûreté, de la sécurité, vous voyez, qui est développé aussi. Ce n'est pas la sécurité publique, simplement. C'est aussi la sécurité sociale et la sécurité économique.
Adrienne Breton, sur la sécurité.
Oui, mais justement, le sujet de la sécurité économique a pris le pas sur tout le reste. Parce qu'on peut avoir des craintes pour sa sécurité, mais ça reste des craintes sur quelque chose qui pourrait potentiellement se passer. À quelques exceptions près, tous les Français ne sont pas touchés au quotidien 24 heures sur 24 par un sujet de sécurité. Tandis que là, le sujet de pouvoir d'achat est un sujet qui touche tout le monde au quotidien. Et tous ceux qui vont faire les courses voient l'augmentation des prix du carburant. Et donc ce sujet, qui est un sujet d'inquiétude quotidien, a finalement pris le pas sur tout le reste. Et de façon assez surprenante...
C'est-à-dire d'un côté on subit et de l'autre côté on est spectateur, quoi, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on subisse
oui,
aussi à son
oui,
tour.
Oui, ouais. mais surtout ça touche nécessairement les sujets de pouvoir d'achat.
Plus
aujourd'hui, touche beaucoup plus de monde de façon beaucoup plus quotidienne, je dirais, que les sujets d'insécurité. Et ce qui est surprenant, je trouve, c'est que le gouvernement a finalement assez peu fait campagne sur ce sujet-là. On sait que des mesures se préparent. Il est censé y avoir une loi pouvoir d'achat qui serait votée en juillet. Mais on ne connaît pas très bien les mesures. Il y a un chèque normalement à alimentation qui était dans le programme du candidat. On ne sait pas très bien ce qui devient. Donc c'est très surprenant que, sachant cela, le gouvernement ne soit pas positionné beaucoup plus fortement sur ce sujet de pouvoir d'achat.
Voilà, en tout cas, on aura l'occasion, évidemment, à la fois demain matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko et également, bien sûr, puisque la soirée se poursuit sur Europe 1, de parler de tous ces sujets qui vous ont accompagné lors de la campagne présidentielle et maintenant de cette campagne législative qui se poursuit. Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Merci beaucoup à Adrienne Breton.
Merci à vous.
Les équipes d'Europe 1 sont mobilisées jusqu'à minuit. Soirée législative, ça continue avec Laurence Ferrari dans quelques petits instants. Très bonne soirée à tous.